Bienvenue pour ce nouveau podcast proposé par la MO Samarcande.
Voici les girafes, une famille moderne de la...
Mon papa, même si aujourd'hui c'est très conflictuel, ça reste une personne très importante pour moi. Quand il est là, il y a du soleil partout dans ma vie. Malgré toutes les crasses qu'il me fait, ça reste mon papa.
Ah, ça moi je peux pas me plaindre. Moi j'ai eu des bisous à la maison.
Devenir adulte en harmonie pour soi-même et avec les autres, est-ce que c'est plus difficile pour le jeune en fonction du milieu dans lequel il grandit ? Je ne suis ni un expert en sciences sociales ni en psychologie. Je suis un éducateur qui propose des animations d'expression radiophonique à des jeunes placés en IPPJ depuis 17 ans. Ce qui m'a amené au fil du temps à me questionner sur l'utilisation que l'on pourrait faire de ce contenu pour permettre à tout un chacun d'entendre certaines réalités vécues par ces jeunes, mais aussi la réaction de professionnels qui vont s'exprimer dans ces podcasts. Si vous vous posez des questions sur la famille au sens large et l'impact que l'éducation au sein de cette structure peuvent avoir dans la trajectoire des jeunes, eh bien, ce sujet de podcast est fait pour vous.
Je t'interdis d'élever la voix sur moi, je suis ta mère. Tu comprends ?
Oh my God !
Devenir adulte en harmonie avec soi-même et avec les autres, c'est parfois plus compliqué en fonction du milieu dans lequel on a grandi. Oui, c'est certain, parce que bien sûr, on vient toujours de quelque part. On ne s'est pas fait tout seul, et donc, bien entendu, je crois que la prime enfance, l'enfance, ne parlons même pas de l'adolescence, mais moi, je suis quand même, quelque part, le reflet de ma famille. Je suis une dame de 80 ans, j'ai été institutrice en primaire, et j'ai eu la chance, pendant ma carrière, d'enseigner à tous les niveaux. Donc j'ai eu une expérience incroyable.
Devenir adulte en harmonie avec soi-même et avec les autres, c'est parfois plus compliqué en fonction du milieu dans lequel on a grandi. On peut présupposer ça, que le fait d'avoir été dans un milieu privilégié, dans lequel on a été protégé, ça permet de devenir un adulte plus harmonieux. Évidemment, si on a vécu des choses très très complexes dans sa vie d'enfant, ça impacte forcément sa vie d'adulte. Et en même temps, moi j'ai la profonde conviction qu'on voit certains adultes qui ont vécu des enfances très tourmentées et qui sont des adultes assez impressionnants. Et leur parcours a fait qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des rencontres que des jeunes peuvent faire, qui peuvent complètement bouleverser l'adulte qu'ils deviendront, même s'ils ont vécu des choses complexes avant. Alors ça, évidemment, je prêche un peu pour ma chapelle, et c'est ce que je dis à mes étudiants, oui, il faut jamais abandonner quelqu'un au bord du chemin, parce que ce sont les rencontres qui font que... Enfin, moi, je crois très fort à ça, aux rencontres. Voilà, je m'appelle Pascale, je suis éducatrice spécialisée de formation et également pro d'éducation physique, donc j'ai une double casquette. Je suis aussi enseignante en haute école, je donne cours à des éducateurs spécialisés.
J'ai l'impression que ça va être beaucoup plus difficile quand on devient adulte de communiquer ses émotions, ses faiblesses avec les autres qui nous entourent, parce que justement on n'a pas eu ce rapprochement avec les parents. Genre les parents ne nous ont pas habitués à parler de nos émotions. Par exemple, si mon père, lui, quand j'étais petite, il me disait pourquoi il agit comme ça, pourquoi il n'est jamais là, des trucs comme ça et tout. Plus tard, par exemple, même là maintenant, quand je suis adolescente, j'aurais plus été cash avec les adultes en disant « Ouais, je me sens pas bien pour ça ». La plupart des adolescents ont besoin de ça pour grandir. C'est une étape fondamentale pour le développement et c'est très important. Parce que plus tard dans la vie, quand tu seras frustré, quand tu seras pas bien, quand tu seras adulte et tout, ça va être beaucoup plus compliqué pour en parler si t'as pas eu l'habitude quand t'étais ado. Mais justement, après, ça crée des problèmes avec l'environnement qui nous entoure, quoi. Parce qu'on n'arrive pas forcément à communiquer, on n'arrive pas à sociabiliser, ou on n'arrive pas à se fondre dans la foule, dans un groupe, ou des trucs comme ça. Et franchement, ça peut nuire à un adolescent qui devient adulte. Bonjour, je m'appelle Mika, j'ai 16 ans, et je participe à ce podcast qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il parle d'un sujet qui me concerne beaucoup, les problèmes de communication en famille.
Avec nos parents, j'ai l'impression qu'on réapprend juste sans cesse, en fait.
Cet extrait provient du carnet de route de Luna, 15 ans.
Que voilà, par exemple, je sais que si on va au magasin, que mon père me dit non pour un paquet de bonbons, bah, faut que j'apprenne. Si maintenant mon père me dit le matin, bah, tu vas à l'école, faut que j'aille à l'école. Nos parents, ils sont constamment un peu, je pense, dans l'angoisse aussi de savoir comment leur fille ou leur fils va réagir.
L'extrait que l'on vient d'entendre parle d'un moment de doute dans la communication. Explorons maintenant, à partir de cet exemple, différentes questions d'ordre éducatif inspirantes, ainsi que différentes postures dans lesquelles nous pourrions nous reconnaître. Dire non à son enfant, est-ce que ça peut angoisser un parent ?
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est parce qu'on l'aime qu'on dit non.
Penses-tu qu'on doit toujours tout expliquer à ses enfants ?
Il y a certaines choses que ça va être compliqué. Donc, il faudra essayer de trouver des mots simples, mais de tout expliquer en une fois, sûrement pas. D'ailleurs, les enfants, je pense, quand ils posent des questions pointues, ils n'attendent pas nécessairement toutes les réponses. Ils tâtent le terrain et ils voient ce que les parents ont envie de leur dire.
Alors, ça dépend des parents, certainement, de leur propre histoire. On est dans... Bon, on a parlé beaucoup de l'enfant roi, puis de l'enfant tyran. J'ai entendu hier une émission où on parlait maintenant de l'enfant dieu aussi. Donc j'imagine que pour les parents où l'enfant est tyran ou dieu, c'est compliqué de dire non, parce que non, ça peut supposer des réactions de conflit. Et il semble que les parents, certains parents puissent avoir peur du conflit, alors que enfin, de façon générale, on sait que l'enfant recherche la structure et vient rechercher ce non. Si le non est adéquat, ben l'enfant vient tester les limites avec tout le monde. Et donc, ce non est important. Si on lui dit oui à tout, il y a quelque chose d'assez peu rassurant. Donc, il a besoin d'un cadre, de pouvoir être limité. Et souvent, ou parfois, ce non s'impose.
Je pense que ça peut les angoisser parfois, parce qu'ils vont se dire « Ouais, si je dis non, mon enfant, il va moins m'aimer. » Genre, par exemple, ça, c'est un peu la vision des choses de ma mère, par exemple. J'en suis sûre, parce qu'il y a des fois, elle essaye de dire non, mais finalement, genre, elle dit quand même oui. Et ça m'attriste un peu, mais bon, je vais pas mentir, ça va un peu dans mon sens, évidemment. Peut-être elle se dit, ouais, mais si je dis non, peut-être mon gamin, il va être amené à ne pas m'aimer, à avoir de la rancœur contre moi, à avoir de la haine, ou alors il va finir par faire les choses derrière mon dos, par exemple. Ça, c'est aussi un autre aspect. Genre, par exemple, les parents qui disent non, genre au fait de fumer, ou genre, par exemple, tu dis non à ton gosse, ou même tu le punis, dans tous les cas, ton gosse, il va le faire derrière ton dos.
Pas nécessairement.
Oui, pas nécessairement, mais dans beaucoup de cas, ça arrive. Et je pense que ça peut aussi les amener à angoisser, justement à se dire, ouais, mais si je dis non à mon gamin, qu'est-ce qu'il pourrait faire ?
Dialoguer avec son enfant, Annette, qu'est-ce que ça signifie ?
Bah, c'est-à-dire que l'enfant doit avoir absolument des repères, et des repères de confiance. Alors celui ou celle qui n'aurait pas très envie de parler avec ses enfants, ah oui, il leur fournirait tout ce dont ils ont besoin. Mais parler avec ses enfants, ce n'est pas facile pour tout le monde.
Pourquoi ce n'est pas facile ?
Parce que voilà, il y a déjà des gens qui ont du mal de se parler entre eux. Il y a des papas et des mamans qui ne se parlent déjà pas beaucoup. Alors, s'il faut parler aux enfants, non. Mais c'est vrai que beaucoup de parents vont répondre, par exemple, « je n'ai pas le temps », alors qu'ils ont tout leur temps.
Alors, dialoguer, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui ont un échange et que forcément, il y a des allers-retours, que chacun est capable d'entendre ce que l'autre a à dire, être dans une écoute complète, donc une écoute où on se dégage un petit peu de nos présupposés pour aller à la rencontre de l'autre, entendre ce qu'il a à dire et inversement. Et alors, il y a un vrai dialogue qui est possible, puisqu'il y a un aller-retour où on entend ce que l'autre dit et lui, il entend ce que nous, on lui dit.
Est-ce qu'une éducation juste, ça existe ?
Non. D'ailleurs, le monde n'est pas juste. La justice même n'est pas juste. Donc non, le monde n'est pas juste. Mais apprendre l'injustice du monde et même de ses proches, ça peut servir. Parce que c'est vrai, le monde n'est pas tout rose, ou je ne sais plus comment on dit avec nounours, mais en tout cas, ce n'est pas préparer les enfants à l'avenir si on est trop, comme mon expression de mon époque, puisque j'ai 80 ans, je n'aime pas les gnangnans.
Mais l'éducation, elle varie entre chaque famille. Mais c'est sûr que, moi je dirais par exemple, une mauvaise éducation, c'est lever la main sur ton enfant par exemple. Ça, c'est une mauvaise éducation. Ou alors rabaisser ton enfant, lui imposer des choses qui ne sont pas nécessairement saines pour ton enfant. Ça, je dirais, ça, c'est une mauvaise éducation. Mais une bonne éducation, c'est quoi en soi? Parce que chaque parent va avoir une différente idée de son éducation. Chaque parent va se dire, ben non, en fait, moi, mon enfant a une bonne éducation, ben, il doit aller tous les jours à l'école, il doit apprendre les règles de la vie, de la société, des trucs comme ça et tout. Franchement, c'est une grosse question, mais voilà quoi, il y a des parents, ils sont plus ouverts, ils vont dire, ben non, moi, une bonne éducation, c'est apprendre les bases de la vie à mon enfant, apprendre à mon enfant à respecter autrui, à s'aimer soi-même et des trucs comme ça. Moi, je dirais que c'est plutôt ça, une bonne éducation. Genre, une bonne éducation, c'est t'apprends à ton gamin de pas détester tout le monde, de pas dénigrer les gens dès qu'ils ont une différente idée de lui. Apprendre à s'aimer, surtout, ça, c'est très, très bon. Parce que le manque de confiance en soi, le manque d'amour propre, le manque d'amour pour soi-même même, ça peut amener à beaucoup de problèmes quand on devient adulte. Et ça aussi, je trouve que c'est important dans l'éducation. Mais genre, une bonne éducation, c'est même pas forcément apprendre directement des trucs à son enfant, c'est aussi montrer des trucs à son enfant. Par exemple, une bonne éducation, c'est déjà être bien éduqué soi-même. Genre, une bonne éducation, c'est par exemple pour un homme, pas montrer à son gamin qu'on frappe sa femme, par exemple, j'ai envie de dire. Après, le gamin, il va grandir comment? Soit il va avoir peur... Soit il va avoir peur de se mettre en couple et des trucs comme ça, soit il va lui-même devenir violent.
Éducation juste ou plutôt éducation ajustée?
Je dirais plutôt ajustée parce que tu entends ce que l'autre a à dire et par rapport à ça, mais tu vas t'adapter, on va trouver quelque chose d'intermédiaire qui correspond, qui est un peu plus du sur-mesure plutôt que du prêt-à-porter. Hein, c'est un peu ça l'idée.
J'ai une question. Lorsqu'on est ajusté à soi-même, est-ce que les enfants pensent qu'ils le ressentent?
Oui. Je pense que quand on est ancré, équilibré, forcément, on est plus juste soi-même. Et donc, ce qu'on propose à l'autre, on y croit, c'est pas simplement un discours, c'est incarné. Et donc, ça va être reçu différemment que si on est vacillant et qu'on n'est pas trop certain soi-même.
On apprend de nos parents, mais qu'est-ce que les parents, ils apprennent de leurs enfants?
J'ai envie de dire... On apprend beaucoup de choses de nos parents parce que, bien évidemment, c'est eux qui nous éduquent, c'est eux qui sont un peu censés nous montrer les chemins de la vie. Parce que, nous, par exemple, on n'a pas demandé d'être mis au monde. On n'a pas demandé. On n'a jamais été un petit ange à l'oreille de nos parents en mode faites un bébé, j'ai envie de venir. Ben non, on n'a jamais dit ça, nous. Ils ont décidé de faire ce choix et maintenant, il faut qu'ils. Montrent à leur enfant comment se mener dans la vie, comment grandir, quelle étape faut franchir et des trucs comme ça. Mais forcément, quand ça tourne pas bien, que par exemple l'enfant fait une bêtise, des trucs comme ça, le parent il doit apprendre que, par exemple, un exemple tout bête, c'est pas tout le temps forcément de sa faute.
À qui?
À l'enfant. À l'enfant qui fait une bêtise ou alors qui fait pas bien un truc et tout. C'est pas forcément tout le temps de sa faute. Faut toujours chercher un tout petit peu plus loin. Pourquoi mon enfant il a fait ça? Pourquoi est-ce que ça c'est arrivé à mon enfant par exemple? J'ai envie de dire ils apprennent des erreurs de leur enfant.
Ils apprennent parce que leurs enfants font aussi des erreurs.
Ouais, parce que les parents ils font aussi des erreurs. Et généralement j'ai envie de dire ça je parle de mes parents à moi. Mes parents à moi ils sont forcément en mode ouais j'ai fait une erreur mais on met ça sous le paillasson. C'est pas grave. Je suis un parent. Voilà, ça arrive à tous les parents de faire des erreurs et tout. Mais quand leurs enfants, eux, ils font une erreur, ils sont là en mode scandale du siècle. C'est t'as fait une bêtise, c'est pas bien et tout. Mais tous les enfants font des bêtises, j'ai envie de dire. Et
pourquoi ils font des bêtises?
Parce qu'on est en train de grandir, on apprend la vie.
Et l'idée de punition, tu vois ce que
ça peut instaurer un cadre à l'enfant, mais il y a toujours des limites à une punition. Il y a toujours des limites. Parce que quand ça porte atteinte à l'intégrité physique, mentale, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que faut juste une punition, ça doit juste servir de leçon, j'ai envie de dire. Ça doit juste faire passer un message à l'enfant en mode écoute, ça c'est pas bien. L'enfant, il doit pas se dire ouais, si je fais ça, je vais recevoir une raclée, quoi. il doit pas se dire ça, parce que ça, c'est instaurer de la peur en ton enfant de faire une bêtise. Je veux dire, par exemple, pour moi, ça aurait été de me faire étudier plus avec mes parents. Genre ça, pour moi, ça aurait été une punition. Mais genre, enfermer un gamin dans sa chambre, ou alors lui crier dessus, c'est même pas juste frapper un enfant, lui crier dessus, par exemple. Parce que moi, par exemple, on m'a crié dessus quand j'étais gamine. Moi, j'ai grandi, je pleure quand on me crie dessus, par exemple. Et ça, c'est pas forcément une bonne façon de punir son enfant.
Je sais qu'avant, elle me le disait très... Elle était très directe, ma mère, limite cassante.
Cet extrait provient du carnet de route de Maya, 16 ans, rencontrée à l'IPPJ de Saint-Servais.
Du coup, elle pouvait me le dire tranquille comme ça, en mode, c'est tout à fait normal et je pouvais mal le vivre. Là, maintenant, elle est moins directe. Elle passe plus par quatre chemins, on va dire. Et des fois, je pense qu'elle-même, elle se retient même de me dire des choses de peur de peur que je me braque ou quelque chose comme ça. Alors que moi, j'ai pas besoin que ma mère se retienne de dire ce qu'elle pense, parce qu'elle peut penser. Elle a le droit de me dire que je suis sa fille. Mais c'est la manière dont tu veux me faire passer le message. Il y a des choses, des fois, qu'elle a pu me dire, qui, allez, dans le fond, n'étaient pas faux, c'est vrai. Mais la manière dont elle a dit était tellement cassante que je finissais en larmes et en rage comme ça. Et du coup, je me fermais à toute discussion et puis ça finissait mal. Et puis la culpabilité me venait dans le sens où je me disais, ah merde, j'étais avec ma mère il y a une heure et j'ai même pas été capable de prendre ce moment-là pour passer un bon moment. Ça a fini par se clasher, quoi. Pourquoi ?
L'extrait que l'on vient d'entendre parle de la manière de faire passer un message à son enfant et les difficultés que cela peut provoquer. Explorons maintenant, à partir de cet exemple, différentes questions d'ordre éducatif inspirantes, ainsi que différentes postures dans lesquelles nous pourrions nous reconnaître.
Oui, parce que de tout ça, je ne retiens qu'un mot, le mot peur. Et c'est vrai, quand on est parent, ce n'est pas facile. C'était plus facile à l'autre époque. Parce que tout ça venait de soi. On se mariait, on avait des enfants. Je vous ai dit qu'il y avait 6 enfants chez mon mari, mais il y avait 6 enfants chez son grand-père aussi. J'ai eu une collègue, elle était l'aînée d'une famille de 10 enfants. Et donc, ce qui fait que, au fond, oui, la mère avait beaucoup de travail, mais l'éducation, ils s'éduquaient par eux-mêmes. Tandis que maintenant, on attend beaucoup, 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 beaucoup des parents. On doit encadrer ses enfants. Si mon mari pouvait parler, il n'est pas ici. Ils jouaient partout, en bande, dans les bois. Et puis après, quand c'était l'heure qu'ils avaient faim, ils revenaient. Tandis que maintenant, dans une famille, il faut s'occuper de tout. Il faut bien sûr éduquer son enfant, mais il faut toujours tenir compte de comment les autres enfants sont éduqués, comment ils sont habillés, leur vie. Et alors, ils font copie conforme. Et la maman qui a des enfants maintenant, elle a peur. Elle a peur de mal faire. Elle a peur d'être critiquée. Que la voisine pourrait même lui dire si sa fille sort mal habillée ou trop maquillée ou trop n'importe quoi, eh bien, oh, qu'est-ce que la voisine va dire ? Qu'est-ce que l'autre va dire ? Bon, alors, la mère, elle est dans la peur. Et une fille va le ressentir plus fort qu'un garçon, ça j'en suis sûre, c'est le cas ici. C'est que notre fille ici, elle a peur aussi. Donc, on est dans un monde de peur, donc on n'est pas vrai. On n'est pas dans la réalité. Alors, on joue un rôle. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de familles que c'est comme ça. Surtout le rapport mère-fille. Le rapport mère-fille, il est très, très, très compliqué. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec la fille, même le père pourrait dire, oui, mais fais attends, regarde un peu à ta fille. Alors que ce rôle-là, il doit être partagé, finalement. Voilà. Et alors ici, il y a beaucoup de mères qui ne font plus confiance à leur fille, à cause de tout ce qu'elle voit partout dans les masses médias et tout ce qu'elle entend. Et elles ont peur que leur fille se fasse kidnapper, elles ont peur que leur fille se fasse violer. Elles ont tellement peur de tout qu'elles ont un dialogue, c'est vrai, raide avec leur fille. Elles feraient mieux de dire directement, en se rapprochant, voilà pourquoi j'ai peur.
Mais je trouve que ces jeunes que tu interroges sont, il y a une certaine maturité. Donc c'est intéressant de dire à l'autre, enfin de dire à la maman, mais en fait tout peut être dit, mais ce qui est très important, c'est la façon dont tu me le dis. Ce qui est important aussi, c'est de respecter l'autre dans ce qu'on a à dire. Et donc le souci parfois, c'est que en tant que maman, il y a probablement des choses qui sont très anxiogènes, des choses comme ça, et qui font qu'on déverse sur son enfant sa propre anxiété. Donc du coup, la forme n'est pas bonne, mais peut-être le fond non plus, parce que c'est le fond qui appartient à la maman. Je suis pas sûre que les enfants doivent toujours tout porter. Donc est-ce que tout est à dire ? Ben, il y a aussi un travail à faire du côté des parents pour pouvoir faire confiance à son enfant et pouvoir mettre parfois les choses un peu à distance sur le plan émotionnel.
Si je reviens à la maman a, elle, peut-être elle-même vécu des expériences négatives dans son adolescence et peut-être même dans son enfance, que nous ne savons pas. Et donc, nécessairement, c'est peut-être à cause de son passé, c'est possible. Mais en tout cas, c'est vrai que tout ça aura un lien. Et comme il y a aussi une phrase qu'on dit, quand on oublie son passé, on est condamné à le revivre. Ou alors il faut être plus, comme moi je l'ai été, mais c'est deux fils que j'ai eus, c'est différent. Eh bien, il y en avait un, le plus jeune, c'est souvent comme ça que ça se passe. Eh bien, il nous a joué le coup une fois que pendant 2 jours, nous ne savions pas où il était. Et nous n'avions pas les GSM ni tout ça. Et donc, bien entendu, mon mari et moi, nous avons refait les endroits où il était passé.
Et est-ce que tu as eu peur ?
Mais bien, ah oui, et bien voilà, à ce moment-là, et c'est ça aussi que parfois les jeunes ne comprennent pas. Quand on l'a retrouvé, eh bien, on avait envie de le serrer dans ses bras, mais en même temps, on avait envie de le battre. De le battre, à cause de l'angoisse qu'on avait eue. Et lui, il trouvait normal, il avait fait une guindaille, comme ça qu'on disait, et il allait revenir. Pour lui, dans sa tête, il n'y avait pas de problème. Il allait revenir. Et je vois, oui, c'est vrai que pour être en harmonie avec soi-même... Maintenant, je vais dire franchement que ceux qui n'ont jamais vécu des petits problèmes, ils ne sont pas prêts à vivre non plus. Ça, il faut le dire. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit, mon deuxième fils m'a causé peut-être plus de problèmes dont il n'a aucune idée, mais j'ai toujours dit... Il retombera sur ses pattes. Donc, quelque part, j'avais quand même confiance en lui.
Comment éviter l'emballement ? C'est quoi les signaux ?
Bah, dans l'échange verbal, c'est quand je pense que l'escalade se fait, quand chacun reste figé dans ses... Quand chacun est dans son propre émotionnel, qu'il n'arrive pas à prendre distance par rapport à ça. Donc, je dirais ce qui est intéressant. Donc, ça, voilà, c'est ça. Donc, si on est dans l'émotion, l'enfant dit quelque chose, on lui répond du tac au tac. Le tac au tac, ça amène à l'escalade. L'idéal, en tout cas, moi, c'est ce que je fais en tant que professionnelle. Moi, en tant que mère, j'essaye aussi, c'est parfois plus compliqué. C'est toujours plus compliqué en tant que mère qu'en tant que professionnelle. Mais c'est prendre une grande respiration avant de répondre et se dire que ce que le jeune adresse, c'est pas spécialement toujours dirigé contre soi, mais ça représente ce dont lui a besoin et il l'exprime. Peut-être pas toujours de façon adéquate, mais c'est surtout ne pas prendre les choses personnellement. C'est quand on prend personnellement qu'on arrive à l'escalade, je pense.
Un petit conseil alors, pour éviter de le prendre trop personnellement. Mm-hmm.
Donc c'est l'idée justement de se mettre dans une position un peu plus en empathie, à l'écoute de l'autre, en disant « mais s'il me dit ça... » Ce qui m'agresse là, ça lui appartient à lui. C'est pas dirigé contre moi, donc il est dans une souffrance, une difficulté. Et où est-ce que moi je vais pouvoir l'aider par rapport à ça ?
Mais j'ai envie de dire, soyez francs avec vos enfants. Genre soyez francs, mais pas francs au point où ça peut les blesser. Genre faut pas être cash en mode blessant. Faut juste genre expliquer les choses telles qu'elles sont. Genre en mode pourquoi est-ce que je dis non ? Genre pourquoi je t'explique ça comme ça et tout ? Genre en anglais il y a un terme genre sugarcoating. C'est genre mettre du sucre en mode couvrir la vérité pour qu'elle paraît plus vraie ou plus douce, par exemple. Et franchement, ça, je pense, pour certains trucs, ok, c'est peut-être bien pour pas blesser l'enfant ou alors le choquer, mais faut pas tout le temps faire ça. Faut pas tout le temps faire ça. Genre, par exemple, quand tu lui dis non, mais faut expliquer pourquoi tu dis non. Mm-hmm. Faut dire pourquoi tu penses comme ça et tout.
Comment est-ce qu'on évite l'emballement ? Tu vois, quand il y a une discussion avec son enfant... Et les choses, ou son ado, on va dire plutôt un ado, et qu'il y a une incompréhension de part et d'autre, et que parfois ça va jusqu'à, par exemple, un refus. Si tu veux sortir le soir, on te dit non, pour une raison ou l'autre, tu le prends mal, et ça s'envenime, et tu finis quand même par sortir, mais ça gueule, quoi.
Ouais.
Et comment éviter ça? Comment éviter qu'on ne s'engueule et qu'on parte dans les aigus?
Ah, moi, je sais pas, parce que franchement, moi, ça s'est toujours passé comme ça avec mes parents, quoi. Genre, moi, dès qu'il y avait un non, genre, on s'emballait direct. Ou alors, je faisais la gueule, quoi. Mais franchement, cette question-là, je peux pas trop y répondre.
Mais c'est parce pas que, agréable.
Genre, ouais, c'est franchement pas agréable, parce que ben, déjà pour moi, c'est pas agréable de me disputer avec mes parents en général. Et même pour eux, se disputer avec son enfant, c'est pas agréable.
Et avant que ça ne. Tu ne franchisses des étapes, toi et maman par exemple, jusqu'à la grosse dispute, où il y a une incompréhension absolue, comme, enfin, totale, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une pause à un moment et de se dire on va trop loin et dire stop?
Mais j'ai envie de dire, genre, le stop, il devrait être plus en mode viens, on fait une petite pause, chacun va un peu de son côté et tout, on souffle un peu, puis on revient sur la question.
Est-ce que ça arrive ça? Est-ce que c'est possible?
C'est possible, bien évidemment. Si on le fait comprendre à son enfant qu'en mode « Attends, là, ça peut aller trop loin. Là, on commence un peu à s'engueuler, à se disputer et tout. Viens, on va tous les deux un peu se calmer. » Mais en fait, généralement, c'est moi, la pause, elle arrive trop tard. Genre, elle arrive à la fin de la dispute et justement, genre, chacun va de son côté. Moi, en fait, surtout avec mon père, par exemple, ça se passe généralement en mode « On se dispute, mais à mort. » Et après, chacun va de son côté. Et une heure, deux heures plus tard, on fait comme si de rien ne s'était passé. Et ça, justement, c'est pas bien. C'est pas bien de laisser ça passer en dessous du paillasson, faire genre que rien s'est passé. Faut toujours genre revenir sur ce qui s'est passé et expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi et comment on pourrait éviter ça la prochaine fois.
C'est ce que toi, tu souhaiterais? Et c'est ce qui se produit parfois avec tes parents?
En fait, généralement, mes parents et moi, on revient jamais sur la question. C'est ça qui est triste. Et justement, ben, si on revient jamais sur la question de pourquoi ça s'est passé comme ça et comment on pourrait éviter ça, ben, ça pourrait éviter tellement de situations dans le futur. Genre, ça pourrait éviter des disputes, ça pourrait éviter même des bagarres carrément.
Parce que se retrouver dans la même situation, sur le même sujet.
Ouais, et justement, c'est ça aussi. Genre, se retrouver sur le même sujet, c'est le pire. Parce qu'on va se dire, mais merde, on s'est déjà disputé sur ça et tout, tu reviens avec ça, nanana, et ça s'envenime encore pire. Et. Mais franchement, c'est triste. Parce que la prochaine fois que ça s'envenime sur le même sujet, ça peut aller plus loin qu'une dispute. Ça peut aller plus loin que des engueulades. Parce que justement, genre on se dit, mais ça me fait chier ce même sujet-là. On revient à chaque fois sur ça avec des disputes, justement, pas avec une explication calme.
Et faire une pause. Tout ne doit pas toujours se régler et se comprendre sur le moment.
Très intéressant. D'ailleurs, il y a je trouve une technique qui est très intéressante proposée par Aïma Mer. Je ne sais pas si tu connais ce psychiatre qui travaille la résistance non violente. Et un des principes de cette technique, c'est de battre le fer quand il est froid et pas quand il est chaud. Donc, c'est-à-dire, je prends un temps plutôt pour me dégager de cette émotion, moi et l'autre. Et puis revenir après là-dessus. Donc ça veut dire ne pas abandonner la discussion, mais la remettre peut-être à plus tard si on est trop dans ce moment émotionnel. Le souci, j'ai envie de dire souvent avec le parent, c'est qu'il est un peu donneur de leçons. Et donc pour l'enfant, c'est de devoir se dire « Ok, elle va revenir avec son truc, maintenant on est tous les deux calmés, mais elle va de nouveau venir me faire la leçon. » Donc on peut revenir vers l'autre, mais dans une position qui est plus équilibrée. Je crois ça, c'est intéressant. Et quand on est apaisé, pour pouvoir de nouveau organiser cette rencontre où chacun écoute l'autre. Et s'il y a une vraie situation complexe, c'est important de pouvoir revenir dessus. Je crois que tout ce qu'on met sur le tapis, il y a un moment, ça ressort. Ou c'est ce qu'on met dans les placards aussi, il y a un moment, ça ressort. Donc quand il y a vraiment des choses importantes, l'idéal, c'est de pouvoir en parler. Les non-dits, ça me semble vraiment une mauvaise idée.
Je crois que j'arriverai jamais à couper vraiment les ponts avec elle.
Lia, 16 ans, rencontrée à l'IPPJ de Saint-Servais.
Mais j'essaierai d'arrêter d'espérer envers elle et j'espère pouvoir un jour être capable de la revoir sans m'énerver ou quoi. Mais je trouve que moi je change et que, enfin, j'essaie de changer et elle essaie rien. Elle parle, mais les actes y suivent pas. Mais c'est compliqué de tenir une vraie discussion d'adulte, entre guillemets, avec elle. Elle a des problèmes dans sa tête, donc elle s'énerve très vite ou elle pleure très vite ou quoi. Donc c'est compliqué de ce point de vue-là aussi.
L'extrait que l'on vient d'entendre parle d'une adolescente qui a l'impression de grandir plus vite que sa maman. Explorons à partir de cet exemple différentes questions d'ordre éducatif, ainsi que différentes postures dans lesquelles nous pourrions nous reconnaître.
Oui, moi je crois que dans ces cas-là, eh bien, il faudra garder toujours le contact. Il ne faut jamais cesser en contact avec quelqu'un puisqu'elle est elle-même en difficulté. Mais ce qu'il faudra faire, c'est certainement éviter certains sujets. On ne va pas se rencontrer pour activer le feu, je vais dire. On va plutôt avoir des moments où il vaut mieux ne pas parler de choses très, très sérieuses et qu'on se... Si on peut, pas toujours facile ça, de se passer un peu d'affection, un peu... se toucher la main. C'est pas toujours parler qu'il faut faire. Bon, moi ici, bien sûr, personne ne me connaît. Si je vous disais que je suis restée 8 ans sans voir ma mère, pour moi, elle était morte. Oui, j'ai vécu beaucoup de choses. Je suis restée 8 ans sans la voir. Pour dire le lien affectif, ça, c'était plus possible. Voilà. D'ailleurs, je lui disais à peine bonjour, mais j'étais toujours là en cas qu'elle avait des besoins, surtout financiers. Donc, je comprends ça. On ne peut pas... Premièrement, on n'est pas obligé d'aimer ses parents. Ça, c'est ce que j'ai dit 50 fois. Les parents, on ne les choisit pas. Et alors aussi, surtout, maintenant qu'on a des enfants, si on veut, ben ça, je dis beaucoup de fois à des gens qui comprennent ou des gens qui sont un petit peu surpris, c'est qu'un enfant n'ayant pas demandé à venir au monde, eh ben, s'il a vraiment des soucis avec ses parents, qu'il porte plainte. Ça, c'est un peu fort ce que je dis ici, mais c'est vrai que ça pourrait aller jusque-là. Voilà.
Alors, ma réaction, c'est de nouveau, je trouve une jeune fille qui a l'air d'avoir pas mal de maturité, où on sent qu'elle entend la difficulté de sa maman, où elle dit, ben voilà, dans sa tête, ça a l'air un peu compliqué, elle pleure, elle rit, enfin voilà, c'est complexe pour elle. Donc, elle se met dans cette position un peu, je trouve, d'adulte. Et alors, elle amène un élément intéressant et que je pense qu'il se passe souvent pour les parents, c'est que la maman a forcément une vision de son enfant. Le temps passe, la jeune fille, elle a grandi. En tous les cas, elle a la sensation, de toute façon, elle évolue. C'est très juste ce qu'elle dit. Et le parent n'est pas toujours capable de voir cette évolution et reste figé par rapport à certains éléments. Enfin, je ne parle pas de tous les parents, mais c'est... Voilà, comment est-ce qu'on fait pour se rendre compte à un moment qu'effectivement son enfant a grandi et que ce qu'il dit est pertinent. Et alors elle évoque cette idée de parler d'adulte à adulte, c'est intéressant. Mais donc ça c'est souvent complexe pour les parents, parce que forcément il y a toute cette période d'adolescence qui est un petit peu entre les deux, où le jeune est par moments enfant et d'autres moments a des attitudes d'adulte. Ceci dit, les adultes ne sont pas tout le temps adultes non plus. Hein.
C'est difficile. Parce qu'on se dit, ma maman, elle est censée prendre soin de moi et tout. Et c'est pas forcément une faiblesse de la part de la maman. La maman, elle a le droit aussi de se sentir mal parfois et tout. Mais ça doit pas arriver au point où l'enfant, justement, se sent adulte. Se sent être la mère de sa propre maman, par exemple. Mais parfois, c'est difficile pour l'enfant d'avaler ça. Parce qu'on se dit, comment est-ce que je peux aider ma mère ? Il y a un petit problème. Il y a un petit problème, maman elle prend plus soin de moi et tout, et moi je suis censée prendre soin d'elle. Et c'est compliqué parce qu'on sait pas comment aider ses parents. Genre, je parle de mon côté, hein. Mais genre, par exemple, des parents en souffrance, ils vont moins expliquer à leur enfant pourquoi ils sont en souffrance. C'est difficile pour des parents d'expliquer ça à son enfant. Et je trouve que c'est très compliqué pour les enfants parce que, par exemple, une autre situation, c'est quand les parents prennent pas soin de leur enfant et qu'ils sont plusieurs enfants. Et que justement, genre par exemple, il y a un grand frère ou une grande sœur et plusieurs petits frères ou petites sœurs qui doivent prendre soin de leur petite sœur. Et ils se disent, attends, là je suis en train de faire le rôle de mes parents. Mmh. Et mes parents, ils sont pas présents là maintenant.
Parfois c'est un coup de main aussi que tu peux rendre.
Oui, bien évidemment. Mais il y a la différence entre le coup de main et prendre la responsabilité de ses parents.
Se sentir adulte. Annette, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire chez une jeune ado qui vit ce genre de difficulté avec sa maman ? Qu'est-ce que tu lui conseillerais à cette jeune fille qui
pense... C'est surtout de toujours regarder vers l'avant, parce que c'est à cause de l'éducation. Dans le temps, à l'époque de mes grands-parents, encore un petit peu à l'époque de mes parents, mais surtout à mes grands-parents, on était adultes, enfants déjà. Voilà, il fallait déjà se débrouiller. Mais maintenant, les gens de n'importe quel niveau social, ils ont tendance, quand ils ont des enfants, à les tenir sous cloche à fromage pendant leur enfance. L'enfant n'est pas dans un monde de réalité assez vite. Voilà, on les tient à l'écart de tout. Par exemple, s'il n'y a jamais un problème, oui, mais surtout pas le dire à l'enfant. Moi, j'ai vécu dans un monde de secrets, donc je sais ce que c'est aussi. Et donc, voilà, il faudrait mettre l'enfant plus en évidence. Un enfant n'est pas un gâteux avant l'âge.
Imagine, une grosse dispute éclate au sein de la famille avec ta maman. Tu vois, tu as un sentiment parfois de détestation. Je n'aime plus maman. Et parfois, c'est le contraire. T'as l'impression que tes parents t'aiment plus. Et alors, ma question, ma phrase au départ, c'est que signifie l'amour que l'on porte encore, malgré tout, à ses parents?
Bah, en soi, c'est se dire, c'est mes parents. C'est même, par exemple, mes parents, ils m'ont fait des trucs de dingue et tout, quand même. Mais j'ai toujours eu, même si j'ai eu une haine, mais je dis comme pas possible, hein, il s'est passé des trucs de dingue avec mes parents. J'ai eu une haine, mais horrible envers mes parents. Mais... au fin de compte, tôt ou tard, j'ai quand même réalisé que je me dis, mais c'est quand même mes parents. Genre, j'ai envie de me dire, sans eux, j'aurais pas pu justement éprouver cette haine. J'aurais pas pu éprouver des sentiments pareils, des émotions pareilles. Et c'est toujours genre se dire que j'aime mes parents malgré cela. C'est aussi se dire, sans mes parents, je serais un peu pas là, quoi. Je serais pas là pour voir ce monde. Voir les choses que ce monde peut m'apporter, des choses comme ça et tout. Mais, je sais pas, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué parce que, tôt ou tard, je pense, pas tous les enfants, bien évidemment. Il y a des enfants où ça se passe bien. Mais la plupart des enfants où ça se passe un peu en mode bancal dans la famille, ils vont toujours passer par cette phase où ils haïssent carrément leurs parents. Mais, justement, encore... devenir adulte en harmonie avec soi, c'est aussi se dire, même si mes parents font ça, je les aime quand même un peu. Même pas, je dois pas les aimer à la folie, mais je les aime quand même un peu. Et voilà, même si mes parents ils sont comme ça, ils font ça, ils disent ça, voilà quoi, faut jamais garder cette rancune. Parce que maintenant, j'ai un peu grandi dans une mentalité, genre là maintenant actuellement, grâce à IPPJ et tout, surtout grandi dans cette mentalité de mes parents, en fait, par exemple, si je donne pas de signe de vie pendant une semaine, c'est pas mes potes qui vont aller à la police et tout. C'est mes parents, c'est tes parents qui vont aller à la police, ils vont dire j'ai peur pour mon enfant et tout. Et ça c'est un petit truc en plus que l'IPPJ m'a donné. C'est un peu le but d'ici, quoi. C'est créer un manque dans les familles et des trucs comme ça. Mais non, franchement, c'est important quand même. Genre, peu importe les crasses et tout que les parents font, disent, montrent, il faut toujours quand même se dire, il y a un peu toujours cet amour, quoi. Il y aura toujours cet amour. Et même si les parents, par exemple, ne le montrent pas, il faut toujours se dire, ton parent, il ne peut pas entièrement te détester. Par exemple, ta mère, elle ne peut pas entièrement te détester parce que la première fois qu'elle t'a eu dans ses bras... tous les efforts qu'elle a fait pour te sortir de son corps, la première fois qu'elle a posé les yeux sur toi, elle t'a quand même aimé. Et même, peu importe ce qui s'est passé, faut toujours se dire, il y a eu au moins un seul moment dans ma vie où ma mère m'a aimé. Et même si après les chemins se séparent et tout, on aura quand même cette pensée dans notre tête de se dire, ma mère, elle m'a au moins aimé une seule fois. Donc, on peut pas dire que mes parents m'ont jamais aimé.
C'est difficile,
mais c'est aussi difficile de se dire quand ça se passe pas bien avec la famille, que mes parents m'aiment. C'est, les deux sont difficiles à se
mais
dire.
Mais le souci, c'est si tu cherches absolument cet amour, tu vois, parce qu'il existe aussi des parents qui n'aiment pas beaucoup leurs enfants, je crois. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais dans
non, bien évidemment,
dans
ça
les
arrive.
Histoires que j'ai pu entendre, Et je me dis, est-ce que c'est pas aussi un risque de chercher absolument à être aimé? Tu vois, à trouver cet amour auprès de parents qui sont parfois mal. Ça existe aussi. Tu vois, et je pense aux jeunes qui pourraient t'entendre.
Bien sûr. La recherche de l'amour de ses parents, parfois, ça peut amener à une mauvaise recherche. Genre, par exemple, des parents qui ne donnent pas beaucoup d'attention à leur enfant. L'enfant, il veut absolument cette attention. Il veut que leurs parents leur prêtent de l'attention un petit peu, que leurs parents se disent « Ah, mais mon enfant, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait ?»
Il existe.
Comment... Ouais, il existe. Et donc, justement, ça peut amener les enfants à faire des bêtises, des grosses bêtises, parfois.
Et par rapport à cette phrase?
Comment ça?
Ben, justement.
Bah...
Devenir adulte en harmonie avec soi-même et avec les autres, c'est parfois plus compliqué en fonction du milieu dans lequel on grandit.
Bah, j'ai envie de dire, c'est pas tout le temps chercher à vouloir trouver l'amour des autres. Genre, certes, c'est difficile, parce qu'on a envie... L'être humain a besoin d'être aimé. Il a besoin d'être reconnu. C'est dans nos gènes, nous-mêmes. On a tous besoin d'être aimé.
Je crois que c'est compliqué dans notre société de détester le parent. C'est quelque chose qui n'est pas autorisé. Donc, le parent, on lui doit le respect. Ça, c'est peut-être un peu moins présent maintenant qu'autrefois. Mais il y a un truc que, de toute façon, le parent, on a envie de lui plaire. On a envie de correspondre. On a envie qu'il soit fier de nous.
Pourquoi?
Ah, ben, je ne sais pas s'il y a une explication à ça. Je pense que c'est vraiment parce que c'est... Parce que c'est le parent, c'est lui qui était là pour prendre soin de nous et on a envie qu'il soit fier de nous. Je pense que la plupart des enfants ont envie que leurs parents soient fiers d'eux. Et donc quand ils ont des comportements qui ne correspondent pas à ça, après il y a aussi toute cette notion de culpabilité qui n'est pas spécialement justifiée, mais il y a quelque chose comme ça, peut-être un peu de judéo-crétin, hein. C'est pour faire une appellation qui fait que dans notre société, c'est comme ça. Il y a assez vite cette culpabilité, c'est quelque chose qui est quand même très très très, très présent, compliqué et lourd. Et l'amour de ses parents, ça on en a tous besoin. On voit bien on voit bien quand on est même des adultes construits, il y a beaucoup de choses des comportements ou des attitudes dans la vie d'adulte, qui trouvent leur jeunesse dans l'enfance et dans ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc c'est vraiment important. Et même adulte, on peut encore vouloir absolument correspondre aux critères que les parents attendaient de nous.
Même s'ils ne sont plus là.
Annette,
que signifie l'amour que l'on porte encore malgré tout à ses parents?
Oui, ça c'est viscéral parce que c'est normal. Il y a quelque chose, quand on dit oui, bien sûr, si l'enfant est quand même de son père et de sa mère, mais il y a quelque chose quand même que on attend tellement de sa maman que quand ça tourne mal, eh bien, c'est difficile, très 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 difficile. D'ailleurs, vous voyez ça avec les Italiens. Je ne vais pas critiquer les Italiens, en famille j'ai des Italiens, mais la maman, c'est quelque chose de sacré. Et quand votre mère vous déçoit, c'est bizarre, mais ça fait plus mal, même que si c'était son père. Et cette fille-ci, elle est très déçue par tout ça. Elle a du mal à être adulte. Elle aura du mal à être adulte. Mais pour être adulte, il faut surtout être indépendant. Voilà, indépendant au point de vue argent, de vie, parce que sans argent, on ne sait rien faire. Mais surtout, il faut essayer, comme moi j'ai dû faire, de se rendre, c'est pas vraiment casser tout, mais il faut quand même qu'il y ait toujours un lien, mais il faut essayer de se détacher, mais ça va être dur.
On apprend beaucoup avec les enfants. Tu parlais tout à l'heure de est-ce que les enfants peuvent apprendre aux parents, et ça je pense vraiment que oui. Et donc en fonction de l'enfant qu'on a en face de soi, on va s'adapter, on va apprendre, et chaque enfant nous apprend quelque chose de différent. C'est ce qui fait la richesse et l'intérêt. Et donc, malheureusement, non, il n'y a pas ça de règles ou de mode d'emploi. Enfin, moi, je ne pense pas du tout qu'il y ait de mode d'emploi. Il y a des techniques qu'on peut utiliser, comme tu dis, être à l'écoute de l'autre, toutes ces choses-là, oui. Un enfant n'est pas l'autre. Est-ce qu'il va convenir à l'un, ne va peut-être pas convenir à l'autre. Et ça, c'est important et intéressant de se dire. Et alors aussi, ce qu'on voit souvent dans les familles, c'est les comparaisons entre les frères et sœurs en disant « Ah, le frère a fait ça » ou « La sœur a fait ça » et toi, tu ne fais pas ça. » Et donc ça, c'est très... je pense que ça doit être très douloureux pour les enfants et pas juste du tout. Donc c'est vraiment se dire en tant que parent, en tant qu'éduc aussi, le jeune que j'ai là en face de moi, c'est lui, là, avec ses particularités, et je le prends là où il est. Et donc, comment je vais l'accompagner, lui ? Et être ouvert à lui, à ce qu'il a à me proposer, et essayer de faire un petit bout de chemin, et le prendre là où il est, dans sa singularité. Et lui me prendra probablement dans la sienne. C'est ce qu'on entend chez cette jeune fille, elle prend sa maman dans sa singularité.
Ben moi, je veux dire que c'est quand même la femme, cette femme-là qui m'a mis au monde.
Maude, 15 ans, rencontrée à l'IPPJ de Saint-Servais.
Et du coup, je vais pas dire, ben tiens, en fait, elle m'a mis au monde, et voilà, basta, c'est la fin, elle est là. Non, justement, moi, je vais être une maman comme ça aussi plus tard. Hein. Moi, si je fais un enfant, je sais pas que j'aurai besoin de tout savoir, mais je vais m'inquiéter pour lui. Que si elle vient me raconter dans ma chambre, par exemple, oh, maman, je suis tombée amoureuse d'un garçon ou je sais pas quoi, mais c'est pas que ça va me faire plaisir, mais je vais me dire, bah tiens, ma fille, elle me fait confiance. Elle sent que je suis là pour elle et que mais si elle me pose des questions, mais je pourrais la conseiller et tout. Mmh. Je vais pas dire que j'ai été dans la chambre de ma mère en disant « Maman, je suis tombée amoureuse ». Non, mais je me suis directement confiée à ma maman. Par exemple, dès que j'ai fait ma première fois, j'ai appelé ma maman et c'était la première à être au courant. Et j'ai dit « Voilà, maman, comme ça, t'es au courant ». Elle m'a dit « Merci de me le dire », mais bon, je trouve ça trop tôt. Et après, elle m'a conseillé, elle m'a dit « Voilà, pour moi, c'est pas quelque chose que je suis d'accord, mais tu me l'as dit et je suis contente ».
L'extrait que l'on vient d'entendre parle de sujets qu'il est parfois difficile d'aborder avec ses parents. Explorons à partir de cet exemple différentes questions d'ordre éducatif, ainsi que différentes postures dans lesquelles nous pourrions nous reconnaître.
Je trouve que c'est comme une espèce de réconciliation entre cette jeune fille-là et sa mère. Elle est très consciente des problèmes de sa mère, mais maintenant, avec ce que je viens d'entendre, elle ne se les applique pas à elle-même. Elle est une autre personne. Elle en a conscience. Mais sa mère, elle ne la reniera pas. Et c'est bien comme ça. Et c'est vrai qu'on voit déjà qu'elle, voilà, sa première fois, elle a dû en parler. Je suis certaine que sa mère, sa première fois, elle n'en a parlé à personne, que ça ne s'est peut-être pas bien passé, parce que ça ne se passe pas toujours bien. Je vais dire, cette fille-ci, elle a beaucoup de chance. Pour moi, personnellement, elle pourra continuer sa vie sans trop de problèmes parce qu'elle a mis beaucoup de choses à plat. Beaucoup de choses à plat. Et au moins, le dire, c'est bien.
Franchement, ça, c'est une relation idéale, je trouve. Enfin, pas forcément idéale parce qu'il y a beaucoup d'autres trucs qui diraient qu'une relation entre mère et fille est idéale. Mais genre justement, avoir cette confiance envers son parent, être confortable, à l'aise de dire certaines choses à son parent, c'est vraiment c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de beau. Par exemple, l'exemple de la première fois, j'ai jamais eu ça avec mes parents. Même quand je tombais amoureuse pour la première fois, j'ai jamais eu ça avec mes parents. Et franchement, ça peut aider à beaucoup de choses. Ça peut rapprocher les parents et l'adolescent. Ça peut beaucoup les rapprocher en mode... tu me fais confiance, ben moi aussi je pourrais te faire confiance, des choses comme ça par exemple. Mais quand ça arrive pas justement, c'est que l'enfant sent le besoin de cacher des choses à ses parents. Et ça c'est triste, parce que quand ça arrive, on sait jamais ce que l'adolescent peut cacher vraiment. Parce que s'il cache que ouais, je suis tombée amoureuse, j'ai fait ma première fois, j'ai eu ça à l'école et tout... S'il cache ça, il pourrait cacher quoi d'autre ? Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut absolument ce genre de confiance dans une famille. Faut pas tout dire à sa mère, quoi. Ben, évidemment, il faut garder quelques trucs pour soi, faut avoir sa vie privée. Tout le monde dans une famille doit avoir sa vie privée, bien évidemment. Mais c'est surtout le fait de pouvoir dire les choses à ses parents. De ne pas avoir honte de dire certaines choses à ses parents et de ne pas avoir peur de dire certaines choses à ses parents.
Est-ce que tu penses que les parents, parfois, ils oublient la tentation d'oublier que leurs enfants grandissent ?
Certainement, qu'effectivement, pour le parent, le temps passe très très vite. Donc, en même temps, il y a des signes extérieurs de prise d'âge. Mais il y a des enfants qui grandissent peut-être plus vite que d'autres, qui se mettent dans des positions où on voit effectivement pas mal de jeunes filles très très jeunes qui veulent déjà s'habiller comme des adultes, prendre des attitudes. Et donc ça, les parents se disent, mais tu es encore un enfant et ça, tu es à côté, quoi, ça ne va pas. Et pour le parent, c'est compliqué parce que est-ce qu'il a un désir que son enfant reste plus petit ou est-ce qu'il a un désir que son enfant vive vraiment son enfance et son adolescence à un rythme plus calme, parce qu'on sait bien une fois qu'on est adulte que quand on est adulte, ça dure très très longtemps et cette période-là, on y retournerait bien, mais c'est fini. Et donc brûler quand on est jeune, les jeunes souvent veulent brûler les étapes, ils ont chaque fois envie d'être au truc, eux ont envie d'être adultes, et une fois qu'ils sont adultes, ils se disent, ah si j'avais su, mais bon là les choses sont faites, quoi.
Pour un parent, son enfant, enfin c'est son enfant, quoi, c'est sa petite chose, il a vu son enfant grandir par tellement d'étapes, il l'a vu quand pour la première fois le bébé était dans ses bras. Ou alors quand elle a fait ses premiers pas, quand elle a parlé pour la première fois, quand elle a été à l'école pour la première fois et tout ça. Et je pense que c'est surtout vouloir préserver son enfant. Vouloir préserver son enfant parce qu'on sait que justement il y a tellement de dangers dans le monde, il y a tellement de mauvaises personnes dans le monde ou des trucs comme ça, qu'on veut absolument protéger son enfant et justement l'empêcher un peu de grandir. Parce que par exemple, je sais pas, imaginons ton enfant il a 16 ans. 16 ans, c'est quand même un petit grand âge, quand même.
C'est toi?
Ouais, moi, par exemple. Mais genre, 16 ans, c'est quand même une grande étape dans la vie d'un adolescent et d'un adulte en soi. Parce que 16 ans, chez les adultes, ils vont souvent se dire « Ah, 16 ans, je me rappelle, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était marrant. » Mais justement, empêcher son enfant, par exemple, de vivre son adolescence pleinement, c'est un peu nuire à son développement. J'ai envie de dire dans un sens où il va pas s'épanouir.
N'avons-nous pas tendance à projeter sur nos enfants parfois nos propres angoisses?
Alors tu dis nous, je te dis moi non. Parce que j'ai fort conscience de ça, que c'est quelque chose qui peut... Donc j'ai toujours eu évité de cet écueil. Mais je crois qu'évidemment, c'est ce qui se passe dans la plupart des choses et dans tous les discours qu'on a entendus, dans les autres podcasts que j'ai entendus aussi. C'est ça, le parent est angoissé, il a ses propres angoisses et donc il envisage des choses qui vont être terrifiantes, il veut protéger son enfant. Donc l'attention, elle est bien sûr positive, mais il y a un transfert de l'angoisse et parfois l'enfant, ça le tétanise. Mais ça peut être pour tout, j'ai donné des cours aussi je m'éloigne un peu, mais j'ai donné des cours de natation à des petits qui apprenaient donc, à apprendre à nager vraiment quand ils sont tout petits. Les parents, s'il y avait les parents, non, moi je préférais que les parents ne soient pas là, mais quand les parents étaient sur le bord, un parent crispé, l'enfant s'accrochait à moi terriblement. Donc il y a quelque chose effectivement qui se transmet. Si le parent est zen, ben, l'enfant va être zen et pas, va pas avoir cette peur. Donc il y a quelque chose qui se transmet de là, je crois vraiment. Donc je te donne cet exemple-là concret, mais ça se passe à un autre niveau. Ouais.
Est-ce qu'il faudrait davantage puiser dans nos souvenirs d'enfance ou d'adolescence pour réussir à donner des réponses à nos enfants?
Je peux vous dire par expérience que les petits-enfants, comme on ne se voyait pas beaucoup, je n'avais pas l'occasion de raconter. Et maintenant que je suis... Et puis, je n'avais peut-être pas envie. Maintenant que je suis vieille, dès qu'on se voit, je raconte des choses à mes petits-enfants. Et que par rapport à ma vie d'avant et par rapport même à leurs parents, qu'ils ne savaient pas. Parce que donc, au fond, je suis comme le relais que je me permets de dire. Que leurs parents... Ils savent, mais ils ne sont pas encore en phase avec envie de raconter à leurs enfants. L'écart n'est pas encore assez grand. Tandis que moi, je peux raconter plein de choses, ils adorent.
Toutes les grands-mères ne sont pas comme toi.
Ah non, ça c'est sûr. Non, 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 mais il y en a beaucoup.
Alors ça, je pense que non. Parce qu'on est tous singuliers, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ce qui était une bonne réponse pour moi ne laissera peut-être pas pour mon enfance, mais on peut lui parler de nos souvenirs d'enfance en disant « voilà ce qui m'est arrivé à moi ». Mais faire un parallèle et vouloir reporter la même chose, qu'il y a un copier-coller, donc ça non, parce que chacun est justement singulier. Et puis, les temps ont changé aussi, hein.
Comment conseiller l'adolescente ou l'adolescent qui souhaiterait aborder des sujets qui pourraient fâcher ses parents?
Franchement, je sais pas, parce que moi, j'ai jamais réussi à faire ça. Et franchement, les adolescents qui arrivent à faire ça, franchement, bravo sur vous, hein, parce que c'est franchement très difficile, hein, surtout quand on a des parents qui réagissent très mal, je vais dire, quand on aborde le mauvais sujet ou alors qu'on parle du mauvais truc au mauvais moment.
C'est quoi un mauvais sujet ?
Bah, je sais pas, par exemple, un truc qui s'est mal passé, ou alors un truc que les parents ont vécu, ou alors un truc que l'adolescent a vécu, ou alors même des sujets tabous au sein de la famille. Genre, par exemple, l'homosexualité, ou alors le monde qui évolue, des trucs comme ça. Ça peut être des sujets tabous dans certaines familles. Et justement, aborder ce sujet-là, ça peut être très difficile. Et franchement, c'est... Faut le faire avec le cœur, quoi. Faut le faire avec le cœur. Si tu trouves que c'est le bon moment, si tu trouves que t'es prêt, faut jamais le faire quand on se sent pas prêt. Faut toujours le faire quand on se dit là, c'est le moment que je dois le faire. Moi, ça m'est arrivé très, très, très rarement que je fasse ça avec mes parents. Mais moi, je m'imagine surtout, c'est se dire là, faut que je le fasse. Je me sens prête et tout. Donc, je vais leur parler à cœur ouvert, quoi. Je vais leur parler d'enfant à parent, quoi. Comme si... en fait, dans sa tête, je pense que le mieux, c'est de s'imaginer genre la meilleure des façons où ça pourrait se passer. Genre en mode, mes parents vont m'écouter, ils vont me comprendre. C'est comme ça que ça devrait se passer et tout. Et même si ça se passe pas comme ça, qu'ils veulent pas nous écouter, qu'ils veulent pas parler de ça ou quoi, mais tant pis. Mais voilà, quoi. Après, il faudra se dire... Ça va créer le fossé, il va un peu plus s'agrandir entre mes parents et moi, mais c'est pas forcément de ma faute.
Si tu n'arrives pas à le dire ?
Non, si les parents ne veulent pas l'entendre.
Si tu le dis et que les parents ne sont pas très contents ou toi tu n'es pas satisfaite de leur réponse, c'est ça ?
Mais faut jamais se dire c'est de ma faute si ça a fait ça sur la relation entre mes parents et moi. C'est jamais de ta faute en soi.
Donc il n'est pas forcément nécessaire de dire tout à ses parents.
Je pense, ouais, il n'est pas forcément tout nécessaire de tout dire.
Enfin, les parents ne seraient pas contents d'entendre ça, de ma part.
Enfin, en soi, c'est aussi genre laisser une vie privée à son enfant.
Donc, pas le dire à ses parents. Et si les parents le remarquent un jour en chipotant, tu vois, dans un carnet intime ou ce genre de choses, est-ce que ça ne peut pas rendre plus compliquées les choses après ?
Bah, franchement, j'ai envie de dire, si ton enfant a décidé de le cacher pendant aussi longtemps... C'est qu'il faut se poser des questions sur toi-même aussi.
Sur
les parents, justement. Il faut se poser des questions sur toi. Pourquoi mon enfant, il a eu cette peur ou alors cette crainte de me dire ça ? Pourquoi il s'est pas, en fait... Pourquoi il s'est pas révélé ? Pourquoi il a pas révélé qui il est vraiment, à mes yeux ? Parce que, en fait, ton enfant, il doit se dire, peu importe ce que je dis à ma mère, peu importe ce que je dis à mon père... Il m'aimera tel que je suis parce que je suis son enfant. Je suis son enfant, je suis le fruit de son amour. Et il est censé m'aimer peu coûte que coûte. Et si ton enfant se dit pas ça, c'est qu'il y a un gros problème. Même pas, genre actuellement, il y a eu un gros problème avant et ça peut causer ça. Et franchement, c'est triste. C'est triste qu'un enfant doit se cacher de ses parents ou alors ait honte de dire certaines choses à ses parents. Parce que t'as mis au monde cet enfant. Cet enfant, il n'a jamais demandé d'être là. Donc, t'es obligé de l'aimer.
Je te remercie beaucoup pour l'exercice, Annette. J'espère que je ne t'ai pas embêtée.
Pas du tout.
Et j'espère que tu as apprécié cet exercice.
Oui, c'est intéressant. Parce que je vois parfois des petites émissions à la télé, avec les jeunes, où on parle d'un petit sujet. Eh bien, il faut faire parler les enfants. Parce que les enfants... mais attends, il y en a qui sont drillés, on ne saurait pas leur avoir un mot. Ils sont verrouillés par leurs parents, ça tu ne racontes pas. Dans le temps, il y avait beaucoup de familles comme ça, beaucoup, beaucoup. Ça tu ne le dis jamais, hein. Ça tu ne le dis pas, tu ne le dis à personne. Hein. Et ce n'est pas uniquement des viols intrafamiliaux, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est par exemple des questions d'argent, ou des questions qu'on a fait ici, ou des trucs. Voilà, voilà. Dans le temps, on vivait assez bien secret.
Oui, mais je crois que c'est effectivement très intéressant. Souvent, on fait l'inverse. Donc on parle de la parole de l'adulte, qui, et on l'écrit, etc. Mais on ne parle pas suffisamment du point de vue du jeune. Donc c'est intéressant de partir de là, c'est riche d'enseignements et ça permet aussi à l'adulte de bouger, de faire bouger un peu les lignes.
Là, le message ici, c'est surtout de dire aux gens, les gars, vous n'êtes pas seuls. Que vous soyez parents, ados, enfants, personnes âgées, jeunes adultes, vous n'êtes pas seuls. Il y a des gens, ils vous comprennent, il y a des gens, ils ont un peu vécu la même chose que vous et il y a plein de ressources qui sont là pour vous. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour vous aider.
Dont celle-ci.
Ouais, surtout Samarcande. Venez à Samarcande.
Merci, Amika. Nous sommes arrivés au terme de ces 4 épisodes en espérant qu'ils puissent être une source de réflexion et pourquoi pas d'inspiration. Merci encore aux différents intervenants d'avoir participé à cet exercice d'écoute et à bientôt pour de nouveaux podcasts de Samarcande.
Pour grandir correctement, on a tous besoin d'être aimés.